toute l'équipe de la Terre au Carré, je m'appelle Stéphane de Beaugency. Ce message pour dénoncer les plateformes logistiques qui continuent de fleurir un peu partout dans la région centre, en particulier dans le Loiret. Beaugency, pas de sortie d'autoroute, pas de zone industrielle très développée, et pourtant on veut nous implanter une plateforme XXL de 14 hectares. C'est l'équivalent de 20 terrains de football. On a monté un collectif, Beaugency, béton, camion, ça suffit, pour s'opposer à ce projet qui va un peu plus détruire la flore, la faune et empoisonner la vie des riverains. Et tout ça pourquoi ? Le fric ? La spéculation immobilière ? Bref, on ne veut pas voir disparaître les terres arables au profit de la logistique, on ne veut pas de dizaines de camions qui passeront à quelques pas de chemin emprunté par les enfants. Voilà, on a une pétition en ligne, on a monté une association, n'hésitez pas à nous soutenir, il suffit de taper béton camion sur change.org. Salut à tous !
Bonjour, alors je m'appelle Anna Kotelnikov. Je vous appelle depuis Paris, au nom de l'Orchestre du Nouveau Monde. Alors, on est une association d'une soixantaine de jeunes musiciennes et musiciens engagés pour la justice sociale et climatique. Je vous contacte pour vous proposer une action le 5 juin 2022, à l'occasion des 50 ans de la Journée mondiale de l'environnement. Et cette date-là est très importante aussi parce qu'elle tombe 7 jours avant le premier tour des élections législatives. Donc, avec l'association, on s'est dit qu'on allait organiser une action devant l'Assemblée nationale pour rappeler l'état d'urgence écologique absolue dans lequel on se trouve. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir la jeunesse qui chante pour son avenir. On va chanter le Dies Irae de Mozart, qui veut dire jour de colère. On est plein d'enthousiasme et on espère que cette action trouvera de l'écho chez les gens et qu'elle aura l'ampleur qu'on espère. Bah, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous intéressera. Au revoir.
Oui, bonjour à tous, c'est Patrick à Aix-les-Bains. Je voudrais rebondir sur le témoignage d'un auditeur de la Terre au Carré il y a quelques jours qui parlait des questions de mobilité. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas plus de dispositions au niveau national pour qu'il n'y ait pas un tel écart entre ces différents moyens de transport et donc favoriser l'usage du train. En tout cas, c'est un sujet qui me semble assez essentiel et dont j'entends finalement peu parler. Un autre point que je voudrais soulever, c'est l'usage de la voiture de fonction. Quand je vois à quel point cette pratique, bon, généralement réservée à des cadres, favorise les déplacements en voiture, je trouve ça assez, comment dire, déplacé. Hein. Et donc, je pense qu'une bonne mesure serait d'interdire cette pratique pour donc l'utilisation d'un véhicule sans frais de carburant et notamment pour l'usage privé. Quoi. Voilà, merci, bonne journée à tous. Au revoir.
Oui, c'est René de Plébin. Oui, à propos du plastique, il y a Yvon Bourgnon, un seigneur de la mer, qui est en train de mettre au point un catamaran pour récupérer les plastiques aux embouchures des fleuves, parce qu'évidemment, c'est là qu'il faut les récupérer. Et il développe son histoire par du crowdfunding. Et ce type mérite du soutien. Voilà, bonne journée.
Et merci pour vos appels et vos mobilisations. Continuez bien sûr à nous en informer, comme tous les jours, sur ce répondeur qui est le vôtre, le 01 56 40 45 45. Sur la période 2007-2018, plus de 11 000 hectares de forêts ont été ravagés par des incendies pour la France métropolitaine. Si la majorité de ces feux ont eu lieu dans la zone méditerranéenne, on voit depuis quelque temps une extension du risque incendie vers le nord du pays, avec des événements qui se déroulent plutôt dans des régions habituellement peu concernées. Avec le changement climatique, les canicules et les épisodes de sécheresse, les feux de forêt vont-ils se multiplier et toucher des territoires jusque-là épargnés ? C'est le dossier de notre Terre au Carré pour comprendre également comment travaille cette science des incendies. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Ménalie Rochou, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Toulouse, vous êtes chercheuse au CERFAX, c'est le Centre Européen de Recherche Avancée en Calcul Scientifique, dans une équipe qui travaille sur le climat et l'environnement, on va en parler. Et puis en duplex de France Bleu Aix-en-Provence, nous sommes avec vous, Sébastien Lahaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien officier pompier spécialiste des incendies de forêt. Vous coordonnez aujourd'hui des projets européens autour de la gestion des feux pour le pôle de compétitivité Safe Cluster et vous avez fondé la société Warusen spécialisée en résilience aux incendies. On va donc se retrouver dans un instant pour parler de ce risque en France et pour répondre aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux bien sûr et vos messages vocaux sur l'appli France Inter. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30. 7h30.
Oui, et l'orque de la Seine est morte. Son corps a été retrouvé dans la matinée, flottant donc sur le fleuve, avant d'être euthanasiée. C'était prévu puisque elle était, la pauvre, en très mauvais état et perdue.
Et puis il faudra vous y faire, mais pendant les 3 semaines qui viennent, nous diffuserons tous les jours à la fin de l'émission la campagne pour les élections législatives. Ça commencera donc aujourd'hui à 14h52 précise. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Lucie Sarfati avec Clément Berman à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
4 hectares de forêt partis en fumée à seulement quelques kilomètres de Rennes. En plein mois de mai, c'était jusqu'ici plutôt rare dans cette région humide. Désormais, ce garde forestier s'inquiète. Ce type d'incendie se multiplie.
Ça fait quand même plusieurs années consécutives qu'on enchaîne 2 sécheresses, une printanière, une estivale. Et pour la végétation, c'est très très dur. Ce qui est inhabituel, c'est qu'effectivement, le changement climatique est vraiment perceptible de plus en plus.
Ça, c'était le 8 mai dernier dans le JT de TF1. Ça s'est donc passé en mai à Rennes, et avec un second incendie d'ailleurs qui s'est déroulé 10 jours plus tard dans la forêt de Liffré. Les feux de forêt vont-ils se multiplier sur le territoire de la France métropolitaine? Dossier donc avec vous, Sébastien Lahaye, qui travaillait donc à l'échelle européenne sur la gestion des feux. Et Mélanie Rochou, donc vous menez vous des recherches autour du climat et de l'environnement. Vous les réalisez donc ces recherches dans un centre de calcul scientifique. Comment est-ce que vous travaillez exactement sur la question des feux alors ?
Eh bien, en fait, on travaille en partenariat avec Météo France. Hein, nous sommes sur le même campus. Et l'idée, c'est de construire un modèle qui puisse représenter le comportement d'un incendie en fonction des conditions de terrain. Donc, ça veut dire les conditions météorologiques, la topographie, le relief, et puis l'état de la végétation. Et à partir de tous ces ingrédients, c'est autant de paramètres d'entrée, en fait, pour un modèle qui va donner quelle est la dynamique d'un incendie, comment il peut accélérer, dans quelle zone il va aller plus vite, et quels effets vont faire que à un moment, il peut devenir atteindre des vitesses de propagation élevées et devenir difficilement contrôlable. Et notamment, une des choses qu'on regarde, c'est comment le feu peut créer sa propre météo, c'est-à-dire comme il y a des fortes, ça dégage beaucoup de chaleur, un feu, eh bien, il peut modifier les conditions de vent locales, et en fait, ce vent ensuite va lui-même peut accélérer le feu, et donc ce vent induit par le feu peut avoir une rétroaction sur le feu, et ainsi le feu peut créer sa propre météo qui va et devenir difficilement contrôlable.
Et donc on essaie de passer des chiffres à la moulinette,
tous les ingrédients
en fait,
c'est ça, pour pouvoir représenter le comportement d'un feu.
Donc vous passez des chiffres à la moulinette, c'est ça, pour essayer d'établir les différents scénarios de propagation des feux?
Exactement. On essaie de accéder à des bases de données, hein, pour avoir toute la description la plus fine possible du terrain. Et ensuite, oui, c'est un ensemble de chiffres en fait qui rentrent dans des équations mathématiques derrière, qui sont intégrées par ordinateur. Et à partir de ça, on peut faire des diagnostics pour voir quelle est la probabilité que telle zone soit touchée. Parce qu'on essaie aussi de prendre en compte les incertitudes, parce que bien sûr, toutes les données qu'on a.
Ah, alors on a une petite coupure avec Toulouse, mais on va passer à Sébastien Lahaye qui lui nous entend d'Aix-en-Provence, le temps de retrouver Mélanie Rochou. Chaque année, Sébastien Lahaye, des feux de forêt spectaculaires sont observés, hein, dans plusieurs régions du monde. Ces derniers jours, ce sont des zones de Sibérie qui ont connu donc de terribles incendies. On entend maintenant depuis quelques années ce terme de méga-feu. Est-ce que ce terme qui concerne donc la Sibérie, l'Australie ou la Californie, est-ce que ce terme pourrait un jour être utilisé en France ?
Oui, alors on a déjà des feux qui répondent à cette définition. Hein. Le feu qu'on a eu dans le Var l'année dernière en est un exemple. Ouais. Bon, ceci étant, il faut quand même rester conscient que ces feux extrêmes qui vont concerner la France de plus en plus, pour le moment, c'est quelque chose qui va concerner des départements tels que le Var, éventuellement la Corse, enfin vraiment la zone méditerranéenne. Et je dirais même une frange assez réduite de la zone méditerranéenne. Sur le reste de la France, et pour revenir au sujet général de l'émission, on n'attend pas de comportement de feu extrême, ainsi que de comportement de feu qui modifie la météo. Ça, c'est propre vraiment au feu extrême. Mmh. C'est pas à ça qu'il faut s'attendre dans les 90% du territoire métropolitain qui ne sont pas méditerranéens.
Alors, sauf que des incendies comme à Rennes, on entendait le sujet tout à l'heure, au mois de mai, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle beaucoup ?
Oui, alors, il y a même peu tôt pour dire que on a vraiment une augmentation de ces feux dans ces territoires non méditerranéens. Il y a une étude très très précise de l'INRAE Avignon. Il y a une équipe qui travaille vraiment sur ce sujet et qui a vraiment établi que encore une fois, il faut distinguer deux zones. La zone méditerranéenne, on a vraiment des certitudes. Le risque va vraiment augmenter. On peut décrire comment il va augmenter dans les décennies qui viennent. On a des projections jusqu'à la fin du siècle en fonction des modèles météo.
À cause de quoi, il va augmenter à cause de l'augmentation des températures, à cause de la végétation. Quel est le critère principal?
Oui, alors en effet, on aurait dû commencer par là. Un incendie, c'est un cocktail de plusieurs choses. C'est la météo, d'une part, qui est un facteur déterminant, la végétation et son état, et le type de végétation, et puis il y a les facteurs humains qui rentrent en compte. Et là, ce qu'on sait, c'est que évidemment, ce qui va évoluer, c'est la météo, bien entendu. Et puis, on en reparlera tout à l'heure, la capacité de la végétation à s'adapter aussi. Mais c'est la météo. En effet, ce qu'on sait, c'est que en zone méditerranéenne, la saison va être plus longue. Aujourd'hui, la saison vraiment critique, c'est en moyenne un mois et demi à deux mois, ça va s'étendre et selon les modèles météo, on pourrait atteindre six mois à la fin du siècle si on est sur une trajectoire de réchauffement climatique qui est pas jugulée. On va avoir donc ces épisodes plus violents, ces feux extrêmes, hein, notamment les jours où on a une conjonction de départ de feu qui font que les sapeurs-pompiers arrêtent un feu, puis deux, puis dix, et puis le 20e ou le 50e échappe, et on a ces feux extrêmes qui sont susceptibles de se produire. Et puis la zone va s'étendre aussi, c'est-à-dire que des départements tels que l'Ardèche, la Lozère ou le sud des Alpes, qui aujourd'hui sont un peu en limite de cette zone méditerranéenne, vont être de plus en plus concernés par ces incendies. Donc là, on a vraiment des certitudes sur ce qui va se passer. Et on sait qu'on atteint vraiment les limites sur cette zone méditerranéenne. Le reste de la France, c'est un peu différent.
Ouais. Mélanie Rochon vous a retrouvé, je crois. Qu'est-ce qui compte finalement quand on modélise comme vous tous ces incendies? C'est précisément la météo ou le climat? Comment est-ce qu'on rentre tous ces paramètres?
Alors, il faut distinguer les échelles, en fait, parce que dans les recherches que je fais, on s'intéresse à l'événement. Et là, c'est vraiment les conditions météorologiques du jour J qui comptent. C'est cela qu'on prend en compte. Après, quand on fait des études au niveau climatique, bien en fait, c'est pas les mêmes outils. On a plutôt des indices en fait de danger qui sont représentations statistiques un petit peu de comment le danger incendie va évoluer en fonction de la sécheresse de la végétation. Alors on considère différentes teneurs en humidité du combustible suivant la profondeur. Enfin, est-ce qu'il est en surface la litière ou est-ce qu'on regarde la canopée ou dans le sol? Et puis aussi, on va essayer d'évaluer quelle est la vitesse potentielle que pourrait prendre le feu si ça se déclenchait. Et tout ça mis ensemble, ça nous permet d'avoir un indice en fait de danger qui est évalué de voilà faible à extrême. Mais c'est pas les mêmes. En fait, pour les différentes échelles spatiales ou temporelles, on n'a pas les mêmes outils. Voilà, de modélisation. Bah, parce que faire tourner un modèle pour représenter un incendie à l'échelle d'un événement, ça veut dire avoir des résolutions de l'ordre métrique, décamétrique, enfin voilà, 10 mètres, 100 mètres. Mais on peut pas se permettre de faire cette analyse à l'échelle de la France pour plusieurs décennies. Donc on n'a pas, voilà, on adapte les outils en fonction des ressources de calcul et des échelles qui sont en jeu.
Et donc vous entrez en action dès lors qu'un incendie se manifeste, hein, pour justement essayer de savoir comment il va se propager. On va y revenir, hein, ensemble dans un instant. On verra comment se mesurent justement ces risques incendies pour les régions et quelles sont justement les régions qui pourraient être touché dans les prochaines décennies. Vos messages, bien sûr, sur franceinter.fr.
On se caresse, on se dévore. On s'aimait trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire, ces connards amnésiques ont foutu en colère. Juste toi et moi. on se caresse, on se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes, a toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dans la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues, brille ton cerveau, sont tes pires cauchemars. Juste toi et moi. Juste toi et moi.
Toi et moi, c'était Bernard Lavilliers sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Une reprise de feu et un combat acharné contre les flammes. Depuis plus de 24 heures, les pompiers d'Ardèche sont sur le front.
Pour ma part, je reste sur la partie haute.
Deux incendies se sont déclarés dans le département. Des feux de forêt inhabituels pour un mois de mai. Les pompiers redoutent un été à haut risque.
Là, c'est lié quand même avec une sécheresse depuis le début janvier qui est quand même importante sur le département de l'Ardèche.
Des départs d'incendies très précoces pour la saison. Pour les habitants, le phénomène interroge.
Je me fais du souci parce qu'au mois de mai, c'est bonheur, quoi. Quand ça arrive en août, on est presque habitué, mais là, au mois de mai...
Voilà, le JT de France 2, c'était le 21 mai dernier pour parler donc de ces incendies sur le territoire français avec Mélanie Rochon, duplex de Toulouse, et Sébastien Lahaye du côté d'Aix-en-Provence. Sébastien Lahaye, tout le monde parle de la précocité. C'est vraiment ce qui caractérise ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. C'est des périodes de risque qui augmentent et qui s'étalent sur l'année.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment une extension de la période à risque. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir, encore une fois, tôt dans la saison, des feux extrêmes. Mais le problème, c'est que on n'est pas forcément prêt à y faire face. C'est-à-dire que les dispositifs de prévention et de lutte qui sont en place l'été, en juillet, août, quand tous les pompiers sont sur le front, les avions sont opérationnels et au jour le jour, on est capable de mobiliser des centaines, voire des milliers de sapeurs-pompiers. Là, on n'est pas capable de le faire à cette époque, au mois de mai, notamment. Et donc, il y a vraiment une extension. Et puis, autre chose aussi qu'il faut intégrer, c'est que il faut qu'on comprenne quelle est la relation précise entre l'indice météo et le risque d'incendie dans ces périodes-là.
C'est quoi l'indice météo exactement?
L'indice météo, c'est une conjonction de la température, de l'humidité, du vent, et puis du nombre de jours sans pluie. Donc ça nous donne un indice, mais qui ne relate encore une fois que la météo. Mais en fait, selon qu'on est en février, en mai ou en juillet, les répercussions vont être différentes. Puis encore une fois, selon qu'on est sur un écosystème de type méditerranéen ou qu'on est sur une zone atlantique ou un climat continental, la réaction va être différente. Et en zone atlantique ou en zone de climat océanique ou de climat plus continental, il faut qu'on apprenne la relation entre cet indice météo et le risque d'incendie. C'est une science qui débute finalement.
Mélanie Rochou, vous, dans les chiffres et les données que vous produisez et que vous avez sous la main, est-ce que vous pouvez faire un bilan ou est-ce que vraiment à chaque fois vous êtes un peu dans la prévision? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une augmentation de la fréquence ou peut-être de l'intensité des incendies en France ou pas?
Bien dans les...
On a reperdu Mélanie Rochou. Ah non, on vous entend.
Oh. On vous entend, Mélanie.
Vous êtes là, tout va bien.
Oui, donc dans les travaux que je mène, je travaille pas sur faire des statistiques sur les différents feux, c'est plutôt comprendre comment un feu se conduit et qu'est-ce qu'il peut faire qu'on va aller vers des événements extrêmes. Donc, mais après, il est vrai que ce qu'on peut voir, c'est que la période de temps sur lequel les indices de danger incendie sont élevés, ben elles s'accroissent en fait, et c'est ce que disait Sébastien Lahaye tout à l'heure en fait, et il faut une capacité à mobiliser les pompiers sur des plus longues périodes de temps, même si les incendies sont petits, et aussi faire en sorte d'adapter les indices aux différents écosystèmes du territoire français.
Donc ça veut dire
clairement... tout un travail qu'il y a à faire parce qu'on n'a pas de données encore pour...
Ouais, Sébastien Lahaye, les premiers feux, les premiers départs de feu cette année ont eu lieu quand exactement? Parce qu'on voit que ça nécessite une réorganisation au niveau des pompiers, mais on parlait du mois de mai, mais il y en a eu même avant, je crois, sur le territoire. Hein.
Oui, bon, en fait, on peut pas vraiment donner une date de début de saison parce qu'on a aussi on a même des feux d'hiver. Hein. On a et d'ailleurs dans certaines régions, on parlait de l'Ardèche tout à l'heure, les zones de montagne, c'est le cas en Corse aussi. On a une activité hivernale. Alors encore une fois, c'est des feux un peu différents. Les causes de ces feux sont différentes et leur comportement aussi. Mais on a tout au long de l'année des incendies. Encore une fois, ce qui pose problème, c'est quand on a une multiplication de ces incendies en hiver, au printemps ou à l'automne. Et on sait que, encore une fois, l'augmentation de la saison vers le printemps et vers l'automne va être, encore une fois, notamment en zone méditerranéenne, va être quelque chose d'assez systématique à l'horizon des décennies à venir.
Et vous parlez donc évidemment beaucoup de la zone méditerranéenne, mais est-ce que par exemple des zones comme les Landes, la façade ouest, où il y a beaucoup aussi de plantations de pins, si je ne me trompe pas, ça peut favoriser comme ça les plantations d'arbres et d'essences de monoculture, comme ça, favoriser des incendies?
Alors oui, évidemment, et la zone des Landes de Gascogne, donc le département de la Gironde, les Landes essentiellement, ça fait un peu exception au reste de ce que j'appelais tout à l'heure le reste de la France, parce que là-bas le risque incendie est géré depuis de nombreuses années, et il est géré un peu comme en zone méditerranéenne, c'est-à-dire qu'on a vraiment là-bas des dispositifs de prévention, de lutte qui sont très actifs. C'est une forêt qui représente un enjeu économique important, donc en effet le risque est très bien pris en compte.
Mais pas toujours efficace.
Alors c'est globalement efficace parce que encore une fois il y a un historique de feu, mais là aussi le risque augmente. Par contre vous faites bien de parler de cette problématique des pinèdes, parce que on a aujourd'hui un autre endroit qui nous alerte un peu, c'est la façade est de la France. Toute la partie est et nord-est, les Vosges, le Jura, les Alpes notamment, où là aussi on a beaucoup de résineux, on a beaucoup de pins, de pins, de sapins, etc. Et ces arbres sont pris dans un effet en cascade, c'est-à-dire que la multiplication des épisodes de sécheresse entraîne une vulnérabilité des arbres qui sont attaqués par des insectes qui dépérissent et donc qui meurent sur de grandes étendues. Et un arbre mort étant évidemment plus vulnérable au feu qu'un arbre vivant, et bien c'est des endroits qui deviennent très vulnérables et très sensibles au feu de forêt. Et là on est assez inquiet et on regarde avec attention ce qui va se passer dans les années à venir.
Allez, une cour archive de l'INA, parce que c'est toujours intéressant de se remémorer ce qui s'est passé avec un événement particulièrement traumatisant pour les habitants de cette région. Ça s'est déroulé en 1949. Retour sur ce drame dans les archives justement de l'INA.
Deux départements, les Landes et la Gironde, ravagés par le feu. Telle est la dernière conséquence d'une sécheresse qui a transformé en un véritable brasier des milliers d'hectares de pins.
Tous les pins étaient arrachés, couchés, les cimes en l'air, n'importe quoi. Le fût des pins était poli comme à la toile émérique.
Le feu va durer jusqu'au 25 août. Il va ravager près de 60 000 hectares de forêt, mais aussi des habitations. Le bilan humain est très lourd. 82 sauveteurs vont périr dans les flammes. Des pompiers, des bénévoles et des militaires du 33e régiment d'artillerie de Châtellerault. C'est l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la France.
Sébastien Lahaye, donc 1949, est-ce que ce drame a permis justement de mieux prévenir les incendies, de mieux s'y préparer sur le territoire ?
Oui, vraisemblablement, c'est vraiment un événement marquant et j'allais dire heureusement, c'est encore à ce jour l'événement le plus qui a entraîné le plus de victimes en France. Donc oui, à partir de cette date, il y a eu vraiment un changement des stratégies, notamment dans le sud-ouest, hein, dans les Landes et la Gironde, où pas seulement les pouvoirs publics, mais même les propriétaires forestiers ont réagi. Et aujourd'hui, il y a vraiment une stratégie qui de prévention et de lutte qui intègre tous les acteurs locaux.
Des questions des auditeurs, Camille.
Oui, Gilles redemande cette question, donc je vous la repose, Mélanie Rochoux. Dans combien de temps allons-nous avoir des méga-feux en France ?
C'est une question difficile à répondre parce que déjà il faut définir ce qu'est un méga feu pour la France. Donc c'est méga feu, c'est en fait en science on n'utilise pas ce terme, on utilise plutôt le terme événement extrême. Donc en fait c'est ça veut dire dans quelles quand est-ce qu'on va avoir des feux qui auront des vitesses de propagation très élevées, des intensités très fortes, possiblement avec des sautes de feu les sautes de feu, c'est le fait qu'il y ait des braises qui soient projetées à l'extérieur du feu principal, du foyer principal, et qui peut déclencher un autre feu. Donc en fait, la question c'est quand est-ce qu'on va avoir ce cocktail de phénomènes qui font que le feu devient extrême. Alors c'est des questions d'objets de recherche. Hein. On sait que dans la zone méditerranéenne, typiquement à Gonfaron l'été dernier, il y a eu des sautes de feu, il y a eu des vitesses de propagation très élevées. Donc ça, c'est déjà un événement qui sort de la norme pour la France. Et donc ce genre d'événement peut être amené à revenir, quoi, parce que finalement, c'est tellement rapide, intense que les pompiers n'ont pas la capacité de supprimer, enfin de contrôler ce feu. Et donc il faut un changement de situation météorologique pour que ça facilite la lutte incendie. Donc j'ai pas de date à donner. C'est simplement on sait que les conditions vont être de plus en plus propices au développement d'incendies et ces conditions vont arriver plus fréquemment et elles vont être plus fortes, quoi, en termes de sécheresse, de vagues de chaleur. Voilà.
Autre question sur franceinter.fr pour vous, Sébastien Lahaye. Quentin demande de rappeler les causes d'un départ de feu en dehors d'un mégot mal éteint, par exemple.
Les causes sont multiples, elles sont humaines. Hein, dans l'immense majorité des cas en France, les feux d'origine naturelle, c'est-à-dire liés à la foudre, sont tout à fait anecdotiques. Donc, alors en effet, l'imprudence est une des causes principales. Il y a la malveillance également aussi, mais l'imprudence, le mégot de cigarette est un événement assez fréquent.
Y compris celui qu'on jette par-dessus la fenêtre de sa voiture quand on est sur l'autoroute, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors là encore, faut distinguer les choses. Quand on est en zone humide, il y a peu de chances que ça mette un feu, mais en zone méditerranéenne, c'est très très fréquent et il suffit de voir le nombre de départs de feu qu'on a en pleine journée en bordure d'autoroute dans certains secteurs des Bouches-du-Rhône ou du Var pour se rendre compte que ça ne peut être que des mégots de cigarettes.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous donc sur ces feux qui nous concernent de plus en plus sur le territoire français. Mélanie Rochaud et Sébastien Lahaye, on vous retrouve dans quelques minutes.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, c'est l'heure de Camille Passauvert.
Et c'est une histoire dont on parle beaucoup dans les médias depuis quelques jours. Non, non, non,
non. En plein milieu de la Seine, hier, un aileron d'orque.
Une orque dans la Seine ?
Une image insolite. Une orque s'est retrouvée en difficulté entre le Havre et Rouen.
Voilà, cette orque repérée dans la Seine la semaine, il y a quelques jours. Je précise qu'on dit une orque, hein, quel que soit le sexe, c'est un nom féminin, orque. Orque perdue et très mal en point qui vient d'être retrouvée morte.
L'animal est donc mort de sa mort naturelle.
Charlotte Curé est porte-parole du groupe d'experts qui a suivi l'orque depuis précisément le 16 mai dernier.
Le corps de l'animal a été aperçu en train de flotter à la surface de l'eau avec une très 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 forte odeur. Le corps va être pris dans un filet remorqué et puis l'autopsie va être réalisée.
Un peu d'abattement dans la voix de la bioacousticienne du CEREMA qui s'est occupée avec d'autres scientifiques des opérations pour tenter de sauver l'orque et la faire retrouver la mère. Parce que l'animal était bien en détresse, en témoignent ces cris que Charlotte Curé a enregistrés et m'a envoyés. Alors la bioacousticienne parle formellement de cris de détresse et les photos et films pris avec un drone pour perturber le moins possible l'orque n'ont fait que confirmer.
Très très rapidement, déjà on a eu du mal à reconnaître que c'était une orque. On a l'impression que c'était un dauphin filiforme de couleur rose-blanche, enfin c'était méconnaissable. Ça ressemble à un fantôme d'orque en fait.
Un fantôme que le groupe pluridisciplinaire de scientifiques essaye de sortir de la Seine samedi tout l'après-midi avec des stimuli sonores. C'est Charlotte Curé qui s'en est chargée, non sans difficulté.
Le fait que ce soit une orque dont on ne connaisse pas du tout l'appartenance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de renseignements sur son dialecte. Donc moi, je suis partie à l'aveugle dans le choix des sons. J'ai fait un petit peu un patchwork, si vous voulez, de différents types de sons.
3 heures d'essai, mais...
Globalement, les réactions ont été incohérente.
L'orque faisait grosso modo n'importe quoi, semblant fuir à l'entente d'un son et revenir à l'entente du même son. Peut-être même n'y réagissait-elle pas, hein, vu son comportement des jours précédents.
Des allers-retours d'un côté à l'autre de la berge, des changements de direction permanents. On voyait que l'animal était très faible, donc un manque de vivacité évident, c'est-à-dire que l'animal est presque en léthargie.
Pas d'échec donc de l'opération de stimuli sonore, comme l'ont rapporté pourtant certains. Ils ont décidé tout simplement en fin de journée, samedi, d'arrêter, vu l'état de l'animal, et de mettre fin à ses souffrances avec validation de la préfecture. Le vétérinaire ayant diagnostiqué une mucormycose, c'est une maladie qui touche les mammifères marins.
Il y avait cette grosse mousse présente sur tout le corps, cette mousse blanchâtre là qui ressemble à un mucus très épais. Et il nous a indiqué que ça avait attaqué tout le corps et que là, l'animal était en train de mourir et qu'il était voué à une mort dans 100% des cas. Et qu'en plus, c'était quelque chose qui faisait vraiment souffrir l'animal et que très généralement, ça attaquait les poumons, ça attaquait le cerveau et que vraisemblablement, ça expliquerait en fait déjà que le système cognitif soit atteint.
Protocole d'euthanasie validé et mis en place donc, mais l'animal n'avait plus été vu depuis samedi soir, 23h10 précisément, jusqu'à ce matin, donc le corps flottant. L'autopsie permettra d'en savoir davantage sur sa provenance, à quelle population l'orque appartenait. Il va y avoir des analyses génétiques. Le contenu de son estomac aussi peut donner des indices. Les cicatrices qu'elle a, on saura aussi son sexe. Tenter de comprendre comment elle a pu se retrouver seule dans la Seine. Situation inédite en France, mais Charlotte Curé ne se fait pas d'illusions.
De toute façon, ce type de phénomène, ça c'est très important, est amené à se répéter. Hein. Il y a déjà eu des baleines à bosse, même un cachalot qui a été perdu, égaré, soit dans un port, soit à proximité des côtes, où il n'a rien à faire. On parle de réchauffement climatique, on parle de bruit anthropique. Hein. Il y a aussi les activités humaines en mer qui se développent et ça fait des ravages, puisque eux, sous l'eau, c'est des animaux qui ne comptent quasiment que sur le son. En fait. Et donc si on perturbe ça, on les empêche de vivre tout simplement. Hein. C'est vraiment une question de survie.
Le son que nous laisse cette orque en détresse. Mais qui ne souffre plus désormais.
Voilà, puisque l'annonce de sa mort a été faite ce matin. Merci beaucoup Camille Cronier. On repart sur la route des incendies dans un instant.
Que desaparezca.
La femme, c'était Rosella and the Weekend.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Alors voilà, tout le versant qui a cramé.
Le paysage a encore la couleur de la cendre.
La vitesse de propagation du feu était d'environ 7 km/h, ce qui est absolument énorme. Et c'est la raison pour laquelle la végétation a complètement disparu.
C'était en août dernier. 10 jours d'incendies qui ont tué 2 personnes, forcé des milliers d'autres à fuir et brûlé 8000 hectares de forêt, dont une partie de la réserve naturelle. 8 mois plus tard, cet expert de l'ONF étudie comment la nature se régénère.
Alors on voit certains chênes qui ont totalement brûlé. Et on voit les premières tiges qui s'installent et qui vont se développer très vite.
Sujet dans le JTT, fin le 14 avril dernier, autour du Massif des Morts, avec Bruno Tessier du CROSS, expert ONF. Nos invités pour parler donc des feux de forêt en France, Mélanie Rochou à Toulouse et Sébastien Lahaye à Aix-en-Provence. Sébastien Lahaye, justement, combien de temps faut-il à la forêt pour qu'elle puisse se reconstituer si évidemment d'autres incendies ne viennent pas la ravager à nouveau?
Ouais, c'est très variable. Alors en effet, il y a des espèces qui sont très résilientes et qui repartent très vite. Par exemple, le chêne liège qui est présent dans le Var sur le tracé de cet incendie est un arbre qui se régénère très vite. Pour d'autres végétations, c'est beaucoup plus compliqué. Et notamment les végétations qui ne sont pas adaptées au feu. Parce que le feu fait partie de l'écosystème, mais pas partout. Et là aussi, c'est un sujet d'étude. Mais une forêt non méditerranéenne qui est exposée à un flux thermique important, donc qui brûle, où les arbres brûlent complètement, va mettre vraisemblablement des décennies, plusieurs décennies avant de se remettre.
Mélanie Rochaud-Voug, donc, qui fait de la modélisation. Que montrent les cartes concernant la sécheresse sur le territoire français, avec les risques évidemment qu'on essaie d'évaluer? Je crois qu'il y a beaucoup de surprises, parce que finalement c'est pas forcément le sud le plus concerné, hein.
Bah c'est vrai que en ce moment on a un déficit de pluie important sur toute la France, hein, de l'ordre de 20%. Mais après, si on regarde par région, bah la sécheresse elle est très marquée dans le Grand Est, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, la Corse. Mais c'est par exemple pas le Sud-Ouest. Donc il y a des zones qui sont sujettes à des fortes sécheresses et c'est un des facteurs qui peut aider à la propagation des feux. Ouais.
Camille, les messages des auditeurs.
Ouais, Frédéric voudrait savoir les gestes essentiels pour se prémunir au maximum des risques d'incendie. Et il ajoute, Sébastien Lahaye, si les pratiques et les obligations d'entretien des terrains qui ont cours dans le sud doivent devenir la règle au nord du Rhône, au nord de la Loire, on va plutôt dire d'ailleurs.
Alors c'est une très bonne question, parce que c'est un phénomène qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant. Le troisième facteur, au-delà de la météo et de la végétation, c'est le facteur humain. Et en effet, la prévention est la clé. Alors, encore une fois, il faut distinguer deux endroits. En zone méditerranéenne, les sapeurs-pompiers ayant atteint les limites, on pourra pas faire mieux en termes de lutte. Il faut vraiment qu'on intensifie au maximum la prévention et donc qu'on généralise.
Mais du coup, les conseils que vous pouvez donner vraiment aux particuliers, là, en l'occurrence, qui nous entendent, c'est, faut rappeler à chaque fois les règles de base, mais est-ce que vous pouvez faire une petite liste comme ça rapidement?
Alors, la consigne numéro un en zone méditerranéenne, c'est de faire ses obligations légales de débroussaillement, c'est-à-dire qu'on enlève toute la broussaille autour de son domicile, autour des routes, etc. Et puis après, il faut vraiment qu'on travaille sur la préparation. Il faut que les gens soient prêts à faire face à un incendie. C'est quelque chose de tout à fait surprenant. Il faut, et les bons gestes, les bons réflexes, c'est de ne pas prendre sa voiture, de s'enfermer dans sa maison, si on est sur une maison en dur, de calfeutrer les portes, les fenêtres, de ne pas bouger, d'attendre les secours et de se dire qu'on... Les secours ne vont peut-être pas venir tout de suite. Voilà, donc il y a vraiment un gros travail de sensibilisation et de préparation de la population et des touristes, parce que c'est aussi une zone qui accueille beaucoup de touristes, y compris étrangers, donc ils ne sont absolument pas avertis et prêts à faire face à ces incendies.
Mélanie Rochaud, faut travailler sur une culture de l'incendie dans notre pays, parce que là on parle beaucoup de la Méditerranée, mais finalement on voit que ça concerne quasiment toutes les régions aujourd'hui quand même, hein.
Bah c'est sûr que dans les projections qu'on peut faire des indices de danger incendie, donc comme l'a dit Sébastien Lahaye tout à l'heure, là c'est la zone méditerranéenne quand même qui va avoir une aggravation du risque avec peu d'incertitudes. Mais après il y a des nouvelles zones qui émergent en fait dans les projections climatiques. Donc ça pourrait être le nord-ouest de la France, donc nord Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, une partie du centre Val de Loire. Bon, dans ce cas-là il y a beaucoup d'incertitudes, donc on a besoin de travailler encore au niveau des modélisations pour rendre plus robustes ces projections. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on développe cette culture du risque et aussi que les gens soient vigilants dans le comportement. Imaginer qu'un feu puisse se produire dans sa région, c'est quelque chose déjà sur lequel il faut travailler, quoi, pour que, ben voilà, quand il s'agit de faire un barbecue, d'allumer un feu de camp dans un bivouac, qu'on sache est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire, quoi, selon les conditions. Ouais.
Sébastien, ouais. Là, vous qui avez travaillé en Australie, est-ce que les stratégies qui sont développées dans ce pays pour lutter contre, alors là-bas, les méga-feux, peuvent s'adapter à notre territoire?
Et,
il y a un complément
de question. Et justement, Johan demande si ce pourrait être une idée de collaborer avec les aborigènes australiens qui connaissent des techniques ancestrales de gestion du feu.
Oui, alors tout à fait. Hein, s'inspirer de ce qui se passe dans les régions qui sont plus avancées que nous en termes de risques, parce que le réchauffement climatique les a frappés plus tôt, puis pour différentes raisons, donc l'Australie, mais on pourrait citer la Californie, l'Afrique du Sud, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Hein, on s'inspire vraiment de ce qu'ils font. Donc, est-ce que leur stratégie de défense, on peut les répliquer? Oui, notamment sur la façon dont on sensibilise, on informe mieux la population. C'est un tournant qui est en train de se produire en Europe et en France hein, ces dernières décennies. On avait un peu désapproprié les citoyens du risque en disant « vous inquiétez pas, les pompiers vont s'en occuper ». Aujourd'hui, on a compris qu'il fallait que les gens se réapproprient le risque. Les aborigènes, alors certes, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui s'applique bien à l'Australie. Hein. Les aborigènes étaient installés là-bas pendant 40 000 ans. L'histoire européenne est un peu différente et les pratiques, notamment de l'emploi du feu, sont assez différentes. Donc on travaille avec eux, mais tout n'est pas réplicable à l'identique.
Mais ces méga-feux qui ont des comportements très particuliers, on en avait parlé d'ailleurs avec vous dans cette émission il y a quelques mois, est-ce que véritablement la façon de lutter contre ces méga-feux, ça peut nous servir aussi en France? Les techniques ne sont pas tout à fait les mêmes, j'imagine, non? Puisque le comportement du feu en lui-même n'est pas similaire.
Alors, les techniques de lutte sont pas tout à fait les mêmes, les stratégies de lutte sont pas tout à fait les mêmes. Néanmoins, lorsqu'on est face à ces feux extrêmes, hein, ceux que Mélanie décrivait tout à l'heure comme étant ceux qui interagissent avec l'atmosphère, qui créent ces méga panaches de fumée qu'on appelle des pyrocumulonimbus, etc. Dans ces cas-là, il y a plus rien à faire en termes de lutte. Donc, c'est vraiment la lutte en fait à ce moment-là consiste à protéger les populations. Et là, oui, on peut tout à fait s'inspirer de ce qui est fait en Australie. Il s'agit encore une fois d'interagir en temps réel avec la population, c'est pas simple, mais c'est des choses que les services de secours en France et l'État sont en train de développer.
Mélanie Rochoux, puisque vous étudiez les feux, les incendies une fois qu'ils ont eu lieu, est-ce que ces dernières années, vous avez noté des similitudes entre certains incendies qui ne sont pas au même endroit et qui n'étaient pas notables justement précédemment?
C'est pas simple de faire des analogies parce que finalement, même si on voit une multiplication des événements importants, quoi, d'incendies, le nombre d'événements extrêmes reste un petit, quoi. Il y en a pas tant que ça. Donc c'est difficile de faire des statistiques et des analogies. Ce qui est clair, c'est qu'il y a tout un travail qui a été fait suite au feu du Portugal en 2017 où il y a 500 000 hectares qui ont brûlé pour essayer de définir ce qu'est un événement extrême, donc ce qu'on appelle communément dans la presse les méga-feux. Et donc il y a un certain nombre de phénomènes qui ont été répertoriés et pour essayer de dire bon ça c'est un feu extrême, ça c'est un feu plus classique. Et donc dans ces phénomènes qui arrivent, il y a le fait que finalement ça soit pas simplement la litière de la forêt qui brûle, ça peut brûler sur toute la hauteur de l'arbre jusqu'à la canopée. Donc c'est ce qu'on appelle les feux de cime. Ça rend les hauteurs de flammes, enfin les flammes sont plus hautes, ça fait l'effet plus intense. Il y a l'aspect saute de feu que je décrivais tout à l'heure, donc la projection de braise qui peut faire qu'on a plusieurs incendies en parallèle à gérer. Il y a le fait d'avoir ce qu'on appelle la pyroconvection, c'est finalement il y a des panaches tellement importants, tellement intenses qui se mettent en place que le feu peut créer son propre orage et donc la foudre peut induire des nouveaux départs de feu et puis ça peut changer localement les vents de manière très importante. Alors ça c'est plutôt les feux qu'on a vus en Amérique du Nord ou en Australie. Au Portugal il y a eu aussi ces phénomènes de pyroconvection. Donc il y a un ensemble de phénomènes qu'on a pu observer qui interviennent dans les feux les plus intenses qui ont été vus à travers le monde ces dernières années, oui.
Et question d'Éric sur franceinter.fr, est-ce qu'il existe des vigies pour surveiller les débats de feu, Sébastien Lahaye? Est-ce que même des particuliers peuvent prêter main forte ou pas?
Alors oui, il existe des vigies. Encore une fois, je pense qu'il faut voir de quoi on parle. En zone méditerranéenne, tout ça s'est développé. On a une détection très précoce des incendies. On engage massivement des moyens, etc. Ça marche bien jusqu'à aujourd'hui, dans la limite de ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, des jours les plus extrêmes. Pour le reste du territoire français, l'idée, c'est pas de reproduire ce qui a été mis en place en zone méditerranéenne. On n'aura pas les moyens, demain, quand tout le territoire sera concerné par le risque incendie, d'avoir des avions partout, d'avoir des milliers de sapeurs-pompiers sur le terrain, d'avoir des vigies tous les kilomètres carrés. C'est absolument pas quelque chose qu'on peut reproduire à l'échelle du territoire. Donc, il faut en effet prendre en compte que le risque incendie va augmenter dans ces régions plus au nord, que ça sera pas les mêmes feux. Hein. Il y a par exemple un problème important, c'est celui des feux agricoles. Un champ de blé qui est très sec, ça peut très vite partir en feu, et s'il y a une forêt à proximité, ça va propager le feu à la forêt. Bah là, il y a tout un travail à mener avec les professionnels, par exemple, pour différer la date ou l'horaire des moissons. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. Et puis il faut aussi, dans ces régions-là, que les pompiers apprennent à lutter contre ces incendies d'un type nouveau, et avec des moyens, encore une fois, qui sont pas les mêmes que ceux de la zone sud. Il y a une véritable ingénierie à mettre en place, en fait.
Mélanie Rochou et Sébastien Lay, très vite, pour terminer, l'été qui arrive, comment est-ce qu'il s'annonce? Est-ce qu'on peut faire des prévisions sur les risques incendies? Mélanie Rochou, en quelques mots.
C'est très difficile à dire, hein. On a une certaine variabilité des conditions météo qui arrivent. En tout cas, vu le déficit de précipitations à l'heure actuelle et la sécheresse qu'on a, les chaleurs précoces, si ça continue comme ça, c'est sûr que ce seront des conditions propices au développement d'incendies. Après, d'ici le mois d'août, les conditions peuvent changer aussi. Donc
prudence. Prudence et message, évidemment, à l'intention du public et des touristes pour être particulièrement vigilants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux équipes de Toulouse et d'Aix-en-Provence. Dans un instant, ce sera les émissions de la campagne officielle pour les élections législatives.